parler également des proches et des accompagnants. Je vais demander à Bruno, à Olivier de la Doucette de me rejoindre, car vous êtes, vous, en contact très régulier avec les familles, et vous savez que l'un des risques de l'accompagnement, c'est de vouloir en faire trop, au risque, docteur Olivier de la Doucette, d'un burn-out. Vous êtes psychiatre, gériatre, et vous constatez également ce risque dans vos consultations.
Oui, avant d'être le fondateur de la Fondation Recherche Alzheimer, que nous avons fondée il y a 20 ans avec Bruno, je me définis comme un psychiatre gérontophile, c'est-à-dire un psychiatre qui aime les vieux. Je le dis parce que malheureusement, ils ne sont pas nombreux. Pendant très longtemps, on a considéré, et ça c'est à la suite de Sigmund Freud, il avait 49 ans et il a dit « les personnes de 50 ans ne sont pas éducables ». Il voulait dire qu'à 50 ans, il n'y avait plus rien à faire. Et donc pendant très longtemps, on a considéré qu'une personne de 70-80 ans avait le même fonctionnement mental qu'une personne de 40, simplement elle avait 20 ou 30 ans de plus, ce qui est complètement faux. Et donc en tant que psychiatre et gériatre, j'étais amené très vite à m'occuper de patients avec la maladie d'Alzheimer. Et comme je vous l'avais dit tout à l'heure en préambule, quand on s'occupe d'un malade d'Alzheimer, en réalité on soigne sa famille. Et on voit notamment les aidants. Et il m'arrive très souvent de demander aux proches de venir me voir séparément pour qu'on parle de la prise en charge, de donner conjointement au malade et à la personne qui le suit, et bien parfois le même traitement quand il s'agit d'un antidépresseur ou de proposer telle ou telle prise en charge. Alors, c'est dans ta direction que je dois aller ? C'est un peu loin. Voilà. Burnout des aidants. Alors, le burnout, c'est un terme qui est très tendance. Aujourd'hui, quand on travaille et qu'on est déprimé, on préfère dire j'ai un burnout plutôt que dire je suis déprimé. Donc, tout le monde a un burnout à un moment ou à un autre. Mais en réalité, ce qui est intéressant, c'est que nous, le burnout, dans notre domaine, notre petit milieu de l'Alzheimer, on connaît ce terme depuis 30 ou 40 ans. Le burn-out des aidants, c'était vraiment un terme avec des articles qui s'adressaient à ce sujet, qui venaient évidemment des États-Unis ou d'Amérique du Nord, pour désigner cet état psychologique où le sujet qui est en charge d'un proche atteint de maladie d'Alzheimer est carbonisé. Burn-out, ça veut dire carbonisé. C'est une pathologie qui, si on ne fait pas attention, vous carbonise au physique comme au psychologique. Et ça, il faut être très attentif à ça parce que ça arrive plus vite qu'on ne croit. Vous avez vu tout à l'heure, hein, je vous avais parlé des 5 millions d'aidants en France. Donc c'est 5 millions de personnes qui sont des aidants avec un potentiel de burn-out non négligeable. On a analysé de plus près qui étaient ces aidants et on a vu que eh bien, c'est 44% la famille et puis le reste des professionnels ou des amis. Voilà. Le burn-out des professionnels est aussi une réalité. Hein, il ne faut pas non plus l'exclure. Alors, vous voyez que l'âge moyen des aidants, eh bien, c'est autour de 60 ans. Hein, enfin, ils ont moins de 60 ans, je veux dire, pardon, 60% ont moins de 60 ans, mais l'âge moyen, bah, c'est quand même 50-60. C'est très classiquement ce qu'on appelle la génération sandwich, où ils sont pris entre les enfants qui grandissent, qui ne sont pas encore complètement dans la vie, et des parents très âgés qui commencent à devenir dépendants. On a voulu comprendre aussi la motivation des aidants. Et vous voyez que, eh bien, pour beaucoup, c'est naturel, c'est par amour, parfois par devoir, et puis parfois, c'est juste par nécessité. Le devoir étant, au fond, une notion qui est en perte de vitesse. Hein, ça, c'est très clair. Dans nos sociétés, on fait moins les choses par devoir que par réciprocité. Tu as été sympa quand j'étais jeune, tu t'es occupé de mes enfants, à mon tour de m'occuper de toi. Mais si tu ne m'as pas suivi quand il fallait, bah, peut-être que je serais un peu moins disponible. La durée hebdomadaire, vous voyez, elle est élevée. Hein, elle est vraiment élevée, puisque vous voyez, un aidant sur trois consacre à peu près 2 heures par jour. Hein, donc on voit, quand on compare avec d'autres pathologies, que c'est vraiment clairement l'Alzheimer qui est la plus chronophage des pathologies entraînant une perte d'autonomie. Hop. L'impact sur la vie personnelle, eh bien, vous voyez qu'il est manifeste. Et comme je le disais, voilà, beaucoup de sondés considèrent que ça a un impact majeur sur les familles. Et vous voyez que le moral, c'est le sujet de ma conférence, hein, il s'agit de l'humeur, le sommeil et la forme physique sont directement concernés par cette maladie et ses conséquences. Alors, pourquoi est-ce qu'un aidant est en danger et pourquoi est-ce qu'il peut, à un moment, eh bien, être victime d'un burn-out? Il y a là un certain nombre de raisons qui sont évoquées, on pourrait en trouver d'autres, mais là, j'ai cité les principales. La charge lourde à porter, hein, on voit bien que c'est une charge lourde à porter aussi bien sur le plan physique que psychologique. Et sur le plan psychologique, il y a cette notion qui a été évoquée ici lors d'un de nos entretiens passés, c'est le deuil blanc. Le deuil blanc, c'est quelque chose de très caractéristique de la maladie d'Alzheimer, qui signifie qu'on fait le deuil de la vie psychologique, sociale, mentale d'un individu, tout en ayant une personne biologiquement en vie à nos côtés. Et c'est loin d'être simple. C'est aussi dur parce que c'est une maladie qui évolue de manière inexorable, car nous n'avons pour le moment pas de traitement qui permette de corriger, voire de guérir le processus évolutif de la maladie. On peut corriger, mais peu. Donc c'est vraiment une maladie qui va évoluer et c'est assez désespérant. Il n'y a pas de répit, car le patient est constamment dépendant, avec parfois des phases, des moments plus difficiles que d'autres et qui ne préviennent pas. C'est la raison pour laquelle les aidants vous disent « je suis tout le temps sur le qui-vive » en attendant un coup de fil de ma mère, de mon père, de quelqu'un, jour et nuit, car je ne sais pas ce qui peut arriver. On a parfois du mal à déléguer, ça c'est très spécifique aussi d'Alzheimer, dans une société où on a tendance à considérer que voilà, on oublie nos vieux, on les abandonne, on ne s'en occupe pas, probablement, c'est possible. Mais moi je vois aussi le contraire, c'est-à-dire que ce sont des familles, des proches, qui surinvestissent la relation, au point d'être un peu dans une abnégation qui finit par être problématique. C'est parfois compliqué pour les enfants qui constatent que leur mère, par exemple, est en train de, eh bien, de se consumer, comme je le disais tout à l'heure, petit à petit, au chevet de leur père malade. Et ce qui est paradoxal, c'est que maman n'entend rien. On a beau lui dire, écoute maman, peut-être que tu devrais te faire aider. On a beau lui dire, maman, tu es vraiment épuisée, papa ne dort pas beaucoup et toi avec, il faut trouver des solutions. Maman ne veut rien entendre. Maman est dans le déni de la réalité. Alors, quand on constate ça, c'est compliqué, parce qu'on a non seulement parfois à gérer le déni du patient lui-même, vous avez compris que Alzheimer s'accompagne souvent d'un déni des troubles pour le malade lui-même, hein, c'est la raison pour laquelle Bruno Dubois vous a montré que la plainte mnésique est inversement proportionnelle à la réalité de cette plainte, car les malades sont dans le déni, ils ne comprennent pas l'ampleur de leurs troubles, En réalité, il s'agit de deux processus. Il y a un processus neurologique qu'on appelle l'anosognosie, où le patient n'est pas conscient de ses difficultés. Pour dire les choses simplement, il oublie qu'il oublie. Et puis, vous avez un processus psychologique où le patient est dans le déni. Le déni est un mécanisme que nous employons en longueur de journée. Quand il y a quelque chose qui nous gêne, on le nie. On a tous fait ça un jour ou l'autre. Nos malades, ils ont une trouille bleue d'avoir Alzheimer. Tout le monde a peur d'avoir Alzheimer. Beaucoup se rendent plus ou moins compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien et ils ne veulent pas voir. Donc, ils ont un mécanisme de défense contre l'angoisse qui est un déni psychologique. Donc, vous avez le patient qui est dans le déni et vous avez les soignants qui le sont aussi parfois. Pourquoi ce déni chez les soignants ? Il est bon quand on est professionnel, mais si même on ne l'est pas, d'essayer d'analyser. Et on voit que dans la dynamique familiale autour de ce patient, il y a des choses qui se passent, qui sont parfois à aller chercher très longtemps en amont. Ça peut être tel mari, un peu volage, qui essaie de se rattraper en fin de vie. Ça peut être telle épouse qui a décidé d'être une épouse absolument modèle pour montrer l'exemple ou pour se prouver quelque chose. Ça peut être telle fille qui s'est sentie mal aimée et qui va se donner à fond au détriment peut-être de sa propre famille pour chercher enfin un mot d'amour, un mot de reconnaissance de la part de ses parents. Tous ces mécanismes sont à analyser pour comprendre et permettre justement de trouver des solutions dans ce risque de burn-out que courent toutes ces personnes. Ensuite, on a des tendances à l'isolement qui, là aussi, contribuent au burn-out. C'est facile. Alzheimer n'est pas une maladie qui facilite le contact avec les autres. Souvent, les gens se sentent un peu seuls parce que ça fait peur. Et les copains, ils sont contents de vous voir une fois, deux fois, puis après, ils trouvent ça un peu lourd et on se retrouve un peu seul. Et donc, l'isolement peut venir très vite. On peut se sentir pris au piège et puis ça coûte très cher, Alzheimer. Alzheimer coûte très cher, ça a été estimé, on pense qu'en moyenne, ça coûte plus de 1 000 euros par mois aux familles. À mon avis, c'est plus. Et vous savez que le maintien à domicile, c'est très coûteux dès lors qu'on fait appel à du personnel. Quant aux maisons de retraite, ça tourne autour de 2 500, 3 000 euros par mois, minimum. Minimum. En région parisienne, on multiplie par 2 le chiffre. Alors, pardon, je n'ai pas appuyé sur le bon bouton. Voilà. Alors, quels sont les signes qu'il faut chercher à repérer lorsque l'on sent qu'un proche ou soi-même, on est proche d'un burn-out. Il faut d'abord rechercher un état de fatigue intense et chronique. C'est une fatigue qui vous gagne du matin au soir. Vous avez beau dormir, vous vous levez le matin, vous êtes crevé et ça dure toute la journée. La fatigue, elle est psychologique aussi. Et cette fatigue s'accompagne souvent d'une certaine irritabilité, d'une tristesse, d'une labilité émotionnelle, c'est-à-dire qu'on passe, pas forcément du rire, mais de la neutralité aux pleurs, et on ne sait pas pourquoi. C'est une fatigue intellectuelle, on n'arrive plus à se concentrer, et c'est une fatigue physique. D'accord ? Mais elle est là, et surtout ce qui est intéressant à observer, c'est qu'elle dure toute la journée. Qu'on ait bien dormi ou pas. D'accord ? Et souvent même, on fait des siestes prolongées. On fait des siestes de 1 ou 2 heures alors qu'on a parfois eu une bonne nuit. Souvent, on n'a pas eu une bonne nuit en réalité. Après, on observe un détachement et un désinvestissement. Les personnes sont épuisées et petit à petit, on sent qu'on observe qu'elles mettent un peu de distance avec leur vie et notamment avec le patient lui-même, dont elles ont la charge. Et elles se sentent, il y a un terme que j'aime bien, c'est l'anesthésie affective. C'est une métaphore qui veut dire ce que ça veut dire. Les gens, leurs affects sont un peu émoussés. ils n'ont plus la possibilité, ils sont tellement épuisés psychologiquement qu'ils n'ont plus la possibilité de ressentir de l'émotion pour l'autre, d'avoir de l'empathie pour l'autre. Ils sont un peu dans une espèce de neutralité comme ça, dont ils ne peuvent plus sortir. Ils sont enfermés là-dedans. Et puis aussi, il y a souvent chez eux une tendance à l'autodépréciation. Hein, tout est noir, rien ne va, y compris pour eux-mêmes. Ils ne sont pas bons, ils sont nuls, ils ne font pas ce qu'il faut. Quelles sont les conséquences du burn-out ? Eh bien, les conséquences, elles sont faciles à deviner. Hein. C'est évidemment une dégradation de l'état de santé de l'aidant. Les statistiques sont impitoyables. 50% des aidants, dès lors qu'ils sont conjoints, décèdent avant le malade. 50%. D'accord ? Donc il faut vraiment être très attentif à ça. Et quand c'est un proche, une fille, un ami, etc., évidemment, peut-être c'est moins de monde, mais il n'en demeure pas moins que ça entraîne une dégradation majeure de l'état de santé. L'autre chose aussi qui est importante, c'est la dégradation de la relation aidant-aidé. Et il n'y a pas longtemps, la journée, je ne sais pas quoi, de la violence familiale, ou je ne sais pas quoi, il y a un truc comme ça, bon, les violences aux femmes, mais on a parlé aussi de la violence aux femmes et dans les familles. Eh bien, je pense que vous êtes au courant que la violence auprès des personnes âgées est une réalité dans notre société. On estime que c'est pas loin de 10% des personnes âgées qui sont, eh bien, victimes de violences à la fois physiques et psychologiques à domicile. Victimes, 10% victimes de violences physiques et psychologiques. Et là où il y a peut-être quelque chose de contre-intuitif, c'est qu'on nous parle beaucoup de ces violences auprès des personnes âgées dans les EHPAD. L'EHPAD bashing, qui est un grand truc en France, et c'est très dommage parce que je pense qu'on oublie qu'on en a besoin de ces EHPAD et qu'il y a quand même une majorité écrasante des EHPAD qui font un bon boulot. Les violences en EHPAD sont minoritaires. Elles représentent 20% des violences auprès des personnes âgées. Mais on en parle parce que c'est celles qu'on repère. 80% de la violence faite auprès des personnes âgées dans notre pays se font à domicile, avec une omerta qui est complète, ou en tout cas importante. Et un des facteurs de risque majeurs de la violence auprès des personnes âgées à domicile comme en institution, ce sont les pathologies neurodégénératives. Parce que le malade est lui-même parfois, on va dire, nerveux et donc agressif, il peut être violent, hein, attention, il ne faut pas en faire non plus une généralité, mais ça arrive, le malade est difficile à prendre en charge, et les aidants sont épuisés. Et quand on est épuisé, on devient facilement maltraitant. D'accord ? Donc, une des conséquences du burn-out, ce n'est pas simplement qu'on se met en danger pour sa santé, mais on met aussi en danger la relation avec le patient atteint d'une maladie neurodégénérative. Non, excusez-moi, j'appuie toujours sur le mauvais bouton, mais on va y arriver. Voilà. Alors, comment faire face ? Eh bien, j'ai là résumé, mais évidemment, encore une fois, ce n'est pas exhaustif. Il faut d'abord essayer de reconnaître son état. Il faut avoir la lucidité de reconnaître ses limites. Connaître ses limites. Écouter l'entourage. Écouter son corps. Écouter sa vie mentale. Si on sent qu'on perd patience, il y a un cercle infernal qu'on observe souvent à domicile dans la relation aidant-malade. C'est « je veux être le meilleur aidant possible. J'en fais des tonnes auprès du patient qui est à mes côtés. Je m'épuise. Donc, je deviens maltraitant. Ensuite, je me culpabilise. Et pour essayer de combler, de rattraper cette culpabilité, je décide d'être le meilleur soignant possible. » Et vous voyez, c'est reparti pour un tour. Donc ça, c'est très très classique. Et donc, il faut essayer de repérer ça chez soi-même si on peut, et en tout cas écouter les autres. Et si vous vous êtes proche de quelqu'un que vous sentez en difficulté, essayez de l'aider à comprendre que s'il est fatigué, s'il est épuisé, il peut avoir droit à un séjour de répit, on va en parler tout à l'heure. Donc il faut reconnaître son état, consulter un professionnel, organiser une réunion familiale si on sent que ça ne va pas. Si on sent que ça ne va pas, il faut pouvoir organiser des réunions familiales. Moi, je fais ça dans mon cabinet régulièrement. Quand je sens que ça ne va pas, je dis, on va faire venir tout le monde, les enfants, maman, pas le malade, et on va parler. Parce que maman, elle, dans le cabinet, quand elle vient me voir, elle me dit, moi, j'en peux plus. Et puis, vous comprenez, ma fille, elle a tellement de choses à faire, et mon fils, il est loin, et ceci et cela. Elle trouve toujours de bonnes raisons pour expliquer pourquoi les enfants ne font pas grand-chose. Donc, je convoque tout le monde, je fais parler maman pour que les enfants comprennent la réalité de ce que c'est la vie pour elle. Donc, les réunions de famille, c'est important, il faut pouvoir communiquer sur les problèmes qui se posent au quotidien. Donc, accepter ses limites, c'est très important aussi. Il faut comprendre, au fond, quels sont les moteurs qui conduisent les gens dans une famille à agir comme ils le font. Donc, repérer la culpabilité, faire le deuil du soignant idéal, ça c'est aussi... Dans notre jargon de psychothérapeute, on parle du surmoi qui est espèce cette vision idéale de soi-même. On a tous ça plus ou moins et donc parfois on se dit « je vais être parfait ». Il faut absolument que je sois parfait auprès de mon conjoint, de mon proche. Mais personne n'est parfait. Personne ne vous oblige à être parfait. Il faut reconnaître ses limites. Et puis il faut essayer de prendre un peu de distance si on peut. Ensuite, comment est-ce qu'on peut se faire aider? Il faut évidemment faire appel à des services de maintien à domicile. La France est maintenant de mieux en mieux quadrillée. Il faut ne pas hésiter à rencontrer les soignants, parler avec eux, repérer les personnes qui ont cette aptitude et d'autres qui n'en ont pas. Je vois aussi parfois des gens qui sont un peu soumis, on leur a proposé quelqu'un qui visiblement ne fait pas le job et puis il les garde quand même. Il faut savoir dire non, il ne faut pas non plus être trop exigeant avec ce personnel, ce n'est pas vous, ils sont dans l'empathie mais il y a des choses qu'ils ne comprennent pas, il faut leur expliquer, il faut qu'il y ait une pédagogie. Donc il y a aussi des structures de répit qui se mettent en place dans notre pays, et ça c'est intéressant, surtout dans une grande métropole comme Lyon, vous pourrez trouver des accueils de jour, c'est très intéressant l'accueil de jour, ça ne marche pas toujours, il faut que le patient soit déjà à un certain stade évolutif, vous avez des séjours de répit dans certains EHPAD qui vous proposent des séjours de répit, il ne faut pas envisager un séjour d'une semaine, ça n'a pas de sens, le patient a à peine le temps de s'adapter qu'il ressort, et pour l'aidant, pour qu'il se repose, il faut que ça soit un mois. Il faut que ce soit des séjours de répit de 3 semaines, 1 mois. Mais vous avez maintenant de plus en plus d'EHPAD qui proposent ça. Et c'est vraiment intéressant, donc il faut le faire quand c'est nécessaire. Baluchonnage, c'est un concept assez original qui nous vient du Canada. Et le principe, c'est que le patient reste chez lui, l'aidant sort pour aller se reposer quelque part, chez un proche, à l'hôtel. Et pendant ce temps-là, vous avez une personne extérieure, un aidant, qui s'installe dans le domicile avec le patient. Ce qui fait que le patient n'est pas trop dépaysé. Ça fonctionne. Il y a aussi des services qui proposent ça. France Alzheimer, vous avez un stand, propose toutes sortes de services comme ça pour aider les aidants en difficulté. Les séjours de vacances, tu te lèves parce que j'ai plus que 3 minutes. Non, même pas. Séjours de vacances. Vous avez aussi, et France Alzheimer le fait, mais d'autres structures associatives qui proposent des séjours de vacances où le patient part avec l'aidant et puis l'aidant, lui, il est dans un hôtel, il se repose, il fait ce qu'il a envie de faire. Pendant ce temps-là, son patient dans le même hôtel est pris en charge par une équipe. Donc c'est très bien parce qu'ils ne sont pas séparés, mais l'aidant peut se reposer. Il y a des actions de resocialisation aussi qui existent, il y a toutes sortes de choses qui sont possibles, ça il faut se renseigner. Formation des aidants, très important aussi, la formation des aidants c'est absolument indispensable, c'est proposé là aussi par des associations, parce que beaucoup de difficultés à domicile proviennent d'un problème de communication. Nos patients Alzheimer sont dans un autre espace-temps que nous. Et on peut avoir tendance à vouloir les ramener dans notre univers à nous en pensant qu'on va leur faire du bien, on va les stimuler, on va les maintenir à un bon état cognitif en leur rappelant qu'il s'est trompé pour la cinquième fois, on n'est pas lundi mais on est mardi, etc. Mon sentiment, c'est que ça ne sert à rien. Si vous voulez être utile à vos proches, atteints d'une maladie neurodégénérative, stimulez-les par des activités de loisirs, sortez-les, faites des choses qui sont plaisantes. Mais inutile de chercher à les corriger. S'ils vous disent des choses un peu aberrantes, vous répondez à côté, vous dites oui, d'accord, on verra. Bon, si c'est très compliqué à gérer, bon, vous pouvez peut-être dire oui, effectivement, je suis toujours en vie, je ne suis pas mort, parce que parfois ils vous prennent pour leur père, ou bon, etc. Mais le plus souvent, ça se gère. Ces dialogues un peu surréalistes parfois, il faut savoir rentrer dans cet univers et être capable de répondre à côté. Hein, moi, je travaille dans un EHPAD que nous avons créé il y a 30 ans où il n'y a que des malades d'Alzheimer. Bon, ben, je sais que quand je rentre dans cet EHPAD, je vais entrer dans un autre espace-temps. Je vais parler avec mes patients de tout et de rien. Et voilà, et ça ira très bien. Alors, à domicile, c'est évidemment plus compliqué quand on est épuisé, le nez sur le guidon, parce qu'on est proche du burn-out. On a envie de dire, écoute, j'en ai marre, ça fait 5 fois que tu me répètes la même chose. Mais en réalité, si on arrive justement à se faire former correctement, on vous apprendra peut-être à gérer ces répétitions incessantes. On vous apprendra à comprendre qu'est-ce qui est derrière, comment on peut éventuellement détourner son attention, comment on peut l'aider à résoudre l'angoisse qui est sous-jacente à ces questions répétées. Donc, la formation des aidants est absolument indispensable. Il y a des bouquins qui sont très bien aussi pour ça, hein, qui disent les choses très clairement, mais il n'y a pas de doute qu'il y a une éducation thérapeutique que certains ont naturellement et pour qui c'est compliqué chez d'autres, qu'il faut essayer d'acquérir pour que cette relation soit plus fluide, moins heurtée et moins épuisante quand on est un aidant. Et enfin, pour finir, il ne faut pas hésiter à consulter des spécialistes, et en particulier des psys. Hein ? Aujourd'hui, on ne va plus voir un psychiatre parce qu'on est cinglé. On va voir un psychiatre parce qu'on a des problèmes du quotidien qui sont difficiles à résoudre. Okay ? Et on les voit à tout âge. Moi, je soigne des jeunes de 20 à 100 ans dans mon cabinet. Ils viennent me voir pour me parler de toutes sortes de problèmes quand ils ont entre 20 et 50 ans, mais parfois, ils me parlent de leur grand-mère qui a Alzheimer, qui leur pose des difficultés. Et donc, on peut très bien aller voir un psychiatre quand on sent qu'on est épuisé, qu'on ne sait plus comment faire, pour lui parler de ses difficultés. Si on a un peu de chance et qu'on trouve un psychiatre qui aime les personnes âgées, qui a des compétences, c'est très bien. Mais la plupart comprendront très bien ce que vous avez à leur dire. On peut voir aussi des psychothérapeutes qui peuvent être là pour vous écouter. Et le psychiatre, s'il pense que vous êtes vraiment pas bien, que vous dormez décidément très mal, que vous êtes proche du burn-out avec une dépression sévère, il vous donnera un traitement. Et si ce traitement marche, ce qui est le cas dans 80% des cas, au bout de 1 mois, vous irez mieux. Vous prendrez un peu de distance par rapport à la situation. Votre conjoint, votre proche sera toujours malade, mais vous, vous aurez pris un peu de recul et vous saurez le gérer beaucoup mieux. Et lui s'en trouvera également beaucoup mieux. Parce que il ne faut pas oublier une chose, c'est que Alzheimer, c'est donc une maladie qui est une maladie familiale où tout le monde souffre. Et donc, quand le conjoint ne va pas bien, le malade va mal, et vice-versa. Donc, on a un devoir de se prendre en main et de se soigner. Voilà, merci de votre attention.
Merci Olivier de la Doucette. Restez avec moi une seconde, puisqu'on a une question. Est-ce que l'intelligence artificielle peut venir nous aider dans ces situations ? puisqu'on en parle beaucoup, notamment dans le domaine de la santé, voilà, par rapport à la maladie d'Alzheimer. Est-ce qu'on peut en attendre quelque chose ?
Alors, l'intelligence artificielle n'a rien à voir aujourd'hui avec notre quotidien. Enfin, je ne crois pas. Peut-être que le docteur Croisy aura des choses à me dire par rapport à ça. Peut-être pour trouver des méthodes de stimulation cognitive. Mais enfin, dans notre vie de tous les jours, non. Pour la recherche, oui. Oui, trois fois oui. Hein, vous avez vu, vous avez compris que Alzheimer, c'est une maladie qui est plurifactorielle. Et moi, j'emploie souvent cette métaphore, c'est un tiercé perdant, ou plutôt un quintet, ou un sextuplé perdant. Si vous avez les six chevaux dans l'ordre, vous êtes Alzheimer très tôt. Si vous les avez dans le désordre, ça sera un peu plus tard. Et si vous en avez trois dans le désordre, vous n'aurez pas Alzheimer. Donc tout ça pour dire que c'est très complexe, qu'on essaie de comprendre justement, d'identifier tous ces facteurs de risque, et on essaie de voir comment ils interagissent entre eux. Il est clair que quand on va suivre des dizaines de milliers de patients, qu'on va pouvoir analyser tous ces facteurs de risque, qu'on commence à identifier petit à petit. Je vous rappelle que parmi les facteurs de risque génétiques, on a une équipe à Lille que nous finançons, qui a identifié 74 gènes qui interviennent dans la maladie d'Alzheimer. Qui ne sont pas des gènes qui agissent directement, c'est des gènes de prédisposition. C'est-à-dire que si vous avez ce gène et que vous avez d'autres facteurs, vous allez peut-être avoir la maladie. Si vous n'avez pas le gène et que vous avez ces autres facteurs, vous n'aurez pas la maladie. Donc, c'est très, très complexe. Et là, clairement, avec l'intelligence artificielle, avec le data mining, c'est-à-dire la capacité d'aller chercher les infos, de les mélanger et d'en sortir eh bien, des idées intelligentes, on va faire avancer énormément la recherche, j'en suis persuadé.
Avec des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers d'informations qu'on va pouvoir croiser. Autre question, pourquoi est-ce que des personnes qui ont eu l'habitude d'apprendre des textes de théâtre, nous dit cette invitée, sont quand même parfois touchées par cette maladie ? Il n'y a pas d'antidote idéal ?
Non, malheureusement, on a autour de nous, on connaît des personnages célèbres, brillants, qui ont eu la maladie d'Alzheimer. Simone Veil a eu la maladie d'Alzheimer. Et Dieu sait si elle a stimulé son cerveau, elle a vécu des choses incroyables. Hein. Mais on pourrait parler de Margaret Thatcher, on pourrait parler de Ronald Reagan, enfin, et plein d'autres.
Et des acteurs comme Jean-Pierre Marielle, dont l'épouse soutient la fondation.
Absolument, qui était un ami. Eh bien, oui, toutes ces personnes ont malheureusement eu Alzheimer, mais probablement parce qu'elles ont stimulé leur cerveau, elles ont pu développer ce que nous appelons dans notre jargon la réserve cognitive, tout au long de leur vie, elles ont repoussé l'âge d'apparition de la maladie. On n'est pas capable de stopper la maladie avec les comportements qu'on a décrits aujourd'hui, que vous pouvez trouver dans notre bouquin par exemple. Mais on repousse. On sait que si on repousse de 5 ans l'apparition de la maladie d'Alzheimer, on diminuera le nombre de patients par 2. Pourquoi ? Parce que c'est une maladie de fin de vie et qu'ils vont mourir d'autre chose avant. Voilà. Donc, offrez-vous la possibilité de mourir avant d'autre chose.
Mais le plus tard possible lisant, quand même.
Hein, en faisant du théâtre, etc. Hein, de toute façon, on finira tous par mourir de quelque chose, mais évitons de mourir d'Alzheimer si on peut. Et clairement, malheureusement, aujourd'hui, cette réserve cognitive, on peut continuer à la développer tout au long de sa vie. Clairement, elle nous protège contre Alzheimer. Elle permet à notre cerveau de compenser davantage. Le cerveau a plein de circuits redondants. Donc, plus on a de redondance, plus on a de circuits qui permettent de remplacer ceux qui vont être détériorés. Mais à un moment, quand on aura épuisé tous les circuits, les symptômes vont apparaître. Mais ça va nous aider énormément. Donc, il ne faut pas renoncer eh bien, à cette prévention.
Merci beaucoup, Olivier de la Doucette. Je pense que...